Bienvenue dans 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune. Tout de suite, retrouvez Alexis et son invité pour une heure de discussion autour d'une thématique de cinéma. Funny little two-bit town where nothing's real. Treat me like a country clown in Nothingville. Et oui.
Bonjour et re-bienvenue dans cette émission qui s'appelle 100 ans de cinéma et des poussières, hein, parce que ça fait un peu plus que 100 ans que le cinéma existe. Une émission, comme son nom l'indique, qui est dédiée au cinéma, à toute l'histoire du cinéma sous bien des aspects, en fonction des thématiques qui sont choisies par mes invités. Et aujourd'hui, notre invité est un monsieur, c'est monsieur Marco Pierrard. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Alors, on n'est pas en direct, c'est la magie de la radio, on peut également enregistrer. Cette émission normalement sera diffusée début juillet, donc normalement il fait très beau.
Parfait pour mon anniversaire.
Voilà, en plus.
Hein, magnifique.
Exactement. Bien sûr, alors déjà, voilà, encore une fois, merci d'avoir accepté de participer. Pour parler d'une thématique que tu as choisie, d'un thème et surtout en fait de l'œuvre d'un grand cinéaste américain incontournable quelque part, qui s'appelle
Orson Welles.
Voilà, Orson Welles, qu'on va présenter tout de suite un petit peu plus en détail. Sachez juste que Orson Welles est tellement, déjà, tellement une passion pour toi et aussi quelqu'un avec une carrière tellement foisonnante puisqu'il est, c'est un touche-à-tout, hein, vous aurez le temps de découvrir ça. On va faire deux émissions. Voilà, tout simplement.
Pour le prix d'une.
Pour le prix d'une.
Évidemment.
Exactement. Ça ne nous a pas coûté plus cher. Deux émissions pour le prix d'une. Donc deux fois une heure qui seront diffusées donc là en juillet et puis une autre en août. Il va se passer un mois pour vous. Et seulement 15 minutes pour nous. Incroyable.
C'est la magie de la radio.
C'est vraiment de la magie. Tout d'abord, je dois aussi également remercier la Radio Campus Paris, où nous enregistrons cette émission. Puisque nous ne sommes pas à Prune, j'ai fait un partenariat avec cette Radio Campus Paris qui a très gentiment accepté de nous accueillir pour pouvoir faire cette émission, puisque tu vis à Paris et c'était quand même bien
Exactement.
Plus simple. Voilà. Et donc, chapeau et merci encore une fois à Radio Campus Paris et à leurs très beaux studios qui n'ont rien à envier à ceux de la Radio Prune. Marco, d'ailleurs, tu as une petite histoire avec cette Radio Campus Paris puisque tu en as été le directeur.
C'est ça. J'étais directeur de Radio Campus Paris après avoir été directeur d'antenne de Prune. Donc du coup, enregistrer une émission à Radio Campus Paris qui sera diffusée sur Prune, c'est un peu un genre de camoulox pour moi, génial, pour parler d'Orson Welles en plus, enfin,
c'était
un coin de mieux quoi.
Oui, je pense que tu étais la personne rêvée voilà, pour tout ça. Effectivement, donc, tu as été directeur d'antenne de la Radio Prune il y a quelques années, lorsque moi je suis arrivé à Prune.
Exactement, c'était un peu les tout débuts de Prune, hein, puisque, qui a fêté son anniversaire il y a peu, un grand anniversaire, c'était en 99, donc j'ai fait ça pendant 3-4 ans, on va dire.
Ouais. Voilà. Oui, puis moi je suis arrivé en 2003.
Oui, c'est ça.
C'était voilà. Il y a 18 ans. Et je suis toujours là.
Un pilier, quoi.
Un pilier, comme un pilier de comptoir.
C'est ça, un peu, oui.
Et qu'as-tu fait après avoir été directeur d'antenne de Prune et directeur de Radio Campus Paris ?
Écoute, moult choses. Hein, continuer un petit peu sur Nantes pendant un petit peu de temps avec l'animation de débat, des choses comme ça. Un peu décrocher de la radio sur cette période-là. Et puis je suis donc revenu à la radio pour venir travailler. En fait, je suis venu sur Paris pour travailler pour Radio Campus Paris. Voilà, donc en tant que directeur. Donc là, c'était plus ce côté, on va chercher des sous. Hein, on essaye de dire aux universités de donner de l'argent. Parce que contrairement à Nantes, il y a plein d'universités à Paris. Donc, ils se refilent un peu la balle. C'était un peu compliqué. Donc, on a réussi tant bien que mal. Et puis, voilà, je faisais encore de l'antenne. Du coup, même si c'était un peu en bonus sur Radio Campus Paris. Et puis après, j'ai travaillé pour la FRADIF, qui est la Fédération des radios associatives d'Île-de-France. Très, très long nom. Donc, j'étais encore un peu en contact avec Radio Campus Paris, évidemment, puisqu'elle fait partie de cette fédération. Mm-hmm. Et voilà, le but, là, c'était un peu de faire en sorte que les radios associatives, qui sont très importantes dans le paysage, alors qu'on apprend que TF1 et M6 ont fusionné, niveau concentration des médias, voilà. Donc, les radios associatives, c'est très important. Donc, on essaie de faire en sorte qu'elles continuent tout simplement de vivre. C'est toujours un petit peu précaire. Mm-hmm. Et puis, ces dernières années, là, je suis plus donc beaucoup moins dans le côté radio et je suis dans le web. Donc voilà, je fais des sites internet pour remplir le frigo et tout ça. Et à côté, je fais aussi des chroniques de cinéma, voilà, au moins une par semaine, plus quand j'ai le temps, sur un site qui s'appelle Citazine, voilà, qui a 10 ans maintenant, même un peu plus maintenant. Et donc voilà, je continue à faire des chroniques sur ce site.
Et ben on partagera le lien sur la description de l'émission.
Oui, exactement. Et puisqu'on pourra faire aussi, je pense que vu que des fois, j'ai pas forcément toutes les dates en tête, peur de dire un peu des bêtises. Donc vous suivez cette émission aussi avec la timeline, la Ultimate Orson Welles Timeline, parce qu'évidemment c'est en anglais, c'est international. Voilà, c'est une timeline que j'ai fait il y a quelques années. On donc mettra
une,
voilà,
une timeline,
le lien
une
aussi.
Une frise chronologique.
Oui, voilà, une frise chronologique qui reprend. Alors bah, j'essaye de mettre un peu tout, donc je la mets à jour quand j'ai un peu le temps et quand je peux. Et quand je vois des nouvelles choses qui sortent sur Orson Welles. Donc il y a eu en 2015, il y a eu énormément de choses puisque c'était l'anniversaire de ses 100 ans de sa naissance. Donc il y a eu beaucoup de choses à ce moment-là. Mais voilà, donc jamais à jour de temps en temps, j'essaie de mettre tout, c'est-à-dire que à peu près tout ce que je dirais dans cette émission, j'ai un peu pioché, voilà, pour l'alimenter. Donc toutes les références de livres, les films plus ou moins connus, vous les retrouverez du coup sur cette timeline. Vous pouvez, il y a des filtres, voilà, si vous voulez savoir ce qu'a fait Orson Welles, ce qu'il a écrit comme livre, en pièce de théâtre, vous pouvez filtrer tout ça. Orson Welles dans la culture populaire aussi, voilà, mm-hmm. On le retrouve, on en parlera dans certains endroits de la culture populaire. Et ben vous retrouvez tout ça donc dans cette Orson Welles timeline. On mettra le lien, je pense, c'est plus simple. Vous pouvez la suivre en même temps en écoutant cette émission, voilà.
Ouais, bah bien sûr, je vais mettre le lien. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui sera dans cette timeline, mais tout ce qui est dans la timeline ne sera pas dans l'émission d'aujourd'hui.
Non, voilà. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça, oui. C'est un des aspects, justement, d'Orson Welles, c'est que c'est, moi, je continue des années après. Alors, j'ai lu un bon petit paquet de bouquins. J'ai commencé par ceux qui étaient en français, et puis après, on va lire ceux qui sont en anglais, qui n'ont jamais été traduits, quoi. Ouais. Donc, j'en ai lu, alors, pas tous. J'en ai toujours 2, 3, 4 de côté, parce que je me dis, je ne vais pas non plus faire que ça de ma vie. Je veux lire d'autres choses aussi. Mais en effet, c'est, et puis ça a ouvert sur d'autres choses aussi, par rapport à ce qui s'intéressait, à quoi il s'intéressait lui. Ouais. Et donc, oui, non, il y a énormément de choses dans énormément de domaines, et c'est aussi ça qui est particulier, c'est que on va parler beaucoup de cinéma. Mais Orson Welles, c'est la radio, évidemment. On est bien placé, là, du coup, pour en parler aujourd'hui. Ouais. Et aussi le théâtre et moult autre chose.
Ouais. Alors, justement, cette passion pour Orson Welles, ça débute. Enfin, moi, je m'en rappelle déjà. Donc, quand on s'est connus en 2003, tu avais une photo de lui dans ton bureau,
ouais,
à la radio. Donc, ça date déjà un petit peu, cette passion. Est-ce que c'est à cause de. Enfin, c'est une personne fascinante, mais est-ce que c'est aussi avec le côté radio
Eh bien, je crois que. Alors, c'est un peu dur, des fois, de se souvenir comment ça a commencé. Mais en effet, je pense que c'est par rapport à la radio. C'est-à-dire que moi, c'est le côté la guerre des mondes le 30 octobre 1938, voilà, Halloween, où il a fait croire, enfin même pas, est-ce qu'il a vraiment voulu faire croire ou est-ce que les gens ont été vraiment très très crédibles? Mais voilà, il a repris donc H.G. Wells, la guerre des mondes à la radio. Et il se trouve que malgré le message qu'il annonce au début, au milieu et à la fin, il y a des gens qui sont tombés dessus, voilà, à ce moment-là, ouais. Et il y a eu une panique, alors plus ou moins exagérée. Il y a eu beaucoup de films, de documentaires dessus. Ouais. Est-ce que les gens, est-ce que les gens ont vraiment paniqué tant que ça? Ça reste à expliquer. Il y a un livre du coup qui explique justement tout ça, qui est vraiment reparti du début et des infos du coup de l'époque, qui dit est-ce que vraiment il y a eu de la panique et à quel point, et qui en met plus parle des fake news. Donc vous retrouvez ça aussi dans la timeline, donc qui est très très intéressant sur ça. Qu'est-ce qui est vraiment vrai, qu'est-ce qui a été exagéré, quoi.
Et à noter en plus que ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille des auditeurs, c'est que cette attaque extraterrestre, cette invasion avait lieu dans une petite bourgade du New Jersey, donc ce qui est un peu l'équivalent, de La Roche-sur-Yon.
Oui, c'est ça. Enfin, ouais. Ouais.
Salut La Roche.
Peut-être ça vous arrivera un jour. Faites bien gaffe.
Non, enfin bref, Orson Welles, c'est quelqu'un de fascinant. Alors pour les cinéphiles, pour les gens qui font de la radio
et pour le théâtre aussi.
Et puis pour le théâtre, voilà. Alors Orson Welles, rapidement, donc vous connaissez son nom. Il est né en 1915, donc on a fêté le centenaire de sa naissance il y a quelques années, il y a pas très longtemps. Et il est décédé en 1985 à l'âge de 70 ans. Il était fatigué, obèse.
Ouais.
Il arrivait plus trop à se déplacer. Et il y a vraiment une légende autour de ce personnage qui a commencé très jeune. Mais vraiment très 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 jeune. À 20 ans, il était déjà connu.
Même avant, hein. Il y a même des articles de lui avant ses 10 ans, oui. Boy Genius,
Et à 23 ans, il fait la une du Times.
Exactement,
même.
Ouais. Enfin, ce qui n'est pas arrivé à personne dans cette salle. Je pense que vous non plus qui écoutez. Bon.
Et puis, à 26 ans, il réalise ce qui est considéré comme l'un des, probablement le plus grand film de l'histoire du cinéma, qui est Citizen Kane. Et ça, vous en avez entendu parler.
Oui, il y a eu beaucoup de classements. C'est vrai que tout ce qui, quand c'est des classements sur des réalisateurs et des critiques, ça reste le film en haut de tous les... les tops, quoi, on va dire. Après, alors, j'ai vu que sur Rotten Tomatoes, il a été détrôné par Paddington 2 il y a pas très longtemps.
Signe
des temps, Paddington 2.
Ah oui, ok.
Voilà, puisque Paddington 2 est à 100%.
Et mais qui est super. Voilà.
Parce qu'en fait, ils ont retrouvé une critique de l'époque qui appartenait à Hearst, parce qu'il y a toute une histoire. Alors, il y a beaucoup de films sur Citizen Kane, si vous voulez. Quasiment l'histoire à côté de Citizen Kane est quasiment aussi hallucinante que le film lui-même. Voilà, donc si vous voulez aller piocher là-dedans, il y a beaucoup de documentaires et de films là-dessus. Et donc, ils ont trouvé une vieille critique publiée dans un journal de Hearst à l'époque, qui défonçait évidemment le film, puisqu'il a essayé de le détruire avant même qu'il sorte, de le brûler, de le racheter pour le faire disparaître, ce film.
Ouais.
Et donc, ça fait un peu baisser la note. Et donc, c'est Paddington 2 maintenant qui est le meilleur film du monde.
Voilà, une critique
qui est sympa. Mais,
qui est très bien. Une critique qui avait probablement été écrite par quelqu'un qui n'avait même pas vu le film, à la Finkielkraut.
On
n'invente rien.
Oui, c'est ça. L'idée, c'était de toute façon de passer le mot. Tous les journalistes de chez Hearst ne pouvaient pas de toute façon aimer le film. Donc, même avant de l'avoir vu, en effet, ils écrivaient des critiques et ils le défonçaient pour pas que les gens aillent le voir. Et ce qui a plutôt bien marché d'ailleurs à l'époque, parce qu'il n'a pas été forcément très bien distribué.
Ouais.
Et c'était un peu le début d'ailleurs de, on va dire, la malédiction d'Orson Welles. C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'il a fait, soit a été retrituré par les studios après, soit n'a pas été vu, mais pendant très 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 longtemps.
Ouais.
Et aux États-Unis, l'idée, et qui des fois disait lui dans les interviews, c'est qu'il a commencé tout en haut avec Citizen Kane, il avait la main dessus, il a pu faire ce qu'il voulait, et puis après c'était la dégringolade. En vrai, quand on regarde tout ce qu'il a fait, avec tout ce qui ressort maintenant, même de projets inachevés, il y a certains projets inachevés qui sont mieux que des films achevés de d'autres réalisateurs, donc ça commence un peu cette mythologie à tomber, mais on en parlera peut-être, mais il y a eu Manque il n'y a pas très longtemps sur Netflix, voilà, qui parle de la création de Citizen Kane, et on se rend compte en fait ce mythe-là de finalement c'était un loser au final, génie mais loser toute sa carrière, reste assez ancré, notamment aux États-Unis. C'est vrai que nous on n'a pas forcément en Europe, parce qu'il est venu tourner en Europe, donc les films étaient vus. Aux États-Unis, les gens n'ont pas vu plein de choses pendant très très longtemps, ou vu des trucs parcellaires. Et en fait, il y a cette image-là de raté, en fait, vraiment de loser. Qui a eu aux États-Unis pendant très longtemps, même s'il y a des livres assez récents dessus qui expliquent que, bah non, en fait, quand on creuse, l'œuvre, elle est incroyable.
Ouais, voilà. Et c'est une personnalité tellement étonnante, pleine. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur lui que, effectivement, il est vraiment entré dans une légende avec, du coup, bah voilà, des passages obligés qui mériteraient pourtant d'être un peu déboulonnés, comme tu le dis. Et comme on peut avoir comme preuve justement de cette légende le nombre de films où il est un personnage. Et un personnage souvent important, parfois central. On reviendra aussi là-dessus dans ces deux émissions. On va commencer par une pause musicale maintenant avec un titre qui est chanté par Orson Welles lui-même.
Chanté, faut le dire vite. Hein. C'est-à-dire qu'il pose sa voix. Hein, comme il y a pas beaucoup de choses où il chante vraiment. Du coup, c'est le morceau donc I Know What Is It To Be Young, qui est un morceau de 1984. Alors on ne sait pas trop pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'on lui a dit.
1984, donc à la toute fin de sa vie.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, oui, parce que en fait, le morceau s'appelle I Know What Is It To Be Young. Et en fait, il y a une espèce de parenthèse après, et c'est But You Don't Know What Is It To Be Old. Voilà.
D'accord.
Donc en gros, c'est un peu truc un peu paternaliste. En gros, je vais t'expliquer la vie, tu vois.
C'est un petit peu le je sais de Jean Gabin.
C'est exactement, ouais. C'est un petit peu dans cette idée-là, en effet. Et donc, il est accompagné par les choristes et les musiciens de Ray Charles.
Bah, c'est pas mal. Voilà. On s'écoute ça tout de suite. À tout de suite dans 100 ans de cinéma.
what it is to be young. But you, you don't know what it is to be old. Someday, you'll be saying the same thing. Time takes away, so the story is told. I've asked so many questions of the wise men I've met. Couldn't find all the answers. No one has as yet. There'll be days to remember, full of laughter and tears. After summer comes winter, and so go the years. So my friend, let's make music together. I'll play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone sharing their time. Friend, let's make music together. I'll play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone sharing their time with you.
There'll be someone sharing their time
L'invité de 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune 92 FM.
Sur Prune et Radio Campus Paris, exceptionnellement, qui nous accueille pour cet enregistrement d'émission. Et donc, on les remercie encore une fois. Et on retrouve donc notre invité, Marco Pierrard, pour parler de Orson Welles, de sa vie, de son œuvre. Et on a fait une présentation à peu près générale de Orson, la personne, la légende même. Et revenons un petit peu à Orson, l'homme, et à ses débuts. Donc, on a dit que c'était un enfant prodige, quelqu'un qui a été connu très vite, très tôt, et multitalentueux, comme on dit, homme orchestre quasiment. Et alors, il naît en 1915 aux États-Unis, dans le Wisconsin.
Exactement. Et puis, donc voilà, il y a des articles sur lui parce que, en compagnie, on va dire, dans le cercle familial, voilà, on trouve qu'il s'exprime très très bien, un peu comme un adulte. Voilà, donc c'est évidemment précoce. Et puis, il s'intéresse, voilà, à la littérature, voilà, à beaucoup de choses. Sa mère est pianiste. Et il va la perdre en fait très très tôt, puisque voilà, il a 9 ans en fait quand elle décède d'une hépatite, si je me souviens bien. Et son père, lui, décédera en fait quand il aura 15 ans. Donc en fait, très tôt, il se retrouve du coup orphelin. Il est repris un peu par un docteur en fait qui suivait la famille. Il y a des relations avec sa mère, on ne sait pas trop. Type de relation, voilà.
Ce serait peut-être son père, on ne sait pas trop.
Ah oui, jusqu'à ce point-là, toi, tu avais cette petite info-là.
C'est ce que j'ai lu hier dans un interview de lui-même.
Ah, qui disait ça. Alors,
Mais bon, légende
ça, c'est,
encore.
Voilà, ouais. Ça c'est quelque chose. on parlera peut-être aussi du vrai et du faux dans les films d'Orson Welles. C'est pareil dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a les interviews d'Orson Welles. Moi, du coup, j'en ai lu beaucoup, beaucoup. Il y a des choses, en fait, qu'il faut filtrer parce qu'en fait, il ne pouvait pas s'empêcher d'enjoliver les choses, de rajouter des choses. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est passionnant, ces interviews, ces prises de parole sont géniales parce que voilà, ça part un peu dans tous les sens. Alors, après, est-ce que tout est vraiment vrai? Est-ce que des fois, il n'exagérait pas certaines choses? Voilà. Mais en effet, pour lui, en tout cas, il est devenu un père. Enfin, d'une certaine façon, il en avait presque deux, puisque voilà, à 15 ans après, il allait dans la Todd School, donc qui était une école très très en avance en fait pour le temps et qui accueillait beaucoup voilà de personnes comme ça un petit peu, on va dire en avance sur leur âge et notamment en fait à la Todd School. Il a travaillé, on va dire, parce qu'il a vraiment travaillé avec Roger Hill. Voilà, il y a des livres du coup du petit-fils en fait de Roger Hill qui revient sur cette relation. Et en fait, Roger Hill, en fait, ils ont notamment fait un livre sur Shakespeare parce que déjà du coup à l'époque, voilà, il était ado et du coup il était déjà passionné par Shakespeare. Il commençait à adapter ses pièces. Et donc avec Roger Hill, ils ont écrit une pièce. Qui s'appelle The Marching Song d'ailleurs, qui a été publié il y a pas très très longtemps. Et donc en fait c'était aussi on dirait une figure paternelle qu'il n'avait plus et c'est donc coup la Todd School a été très très importante aussi dans le développement en fait d'Orson Welles parce que ça l'a amené vers le théâtre et très très vite en fait il mettait en scène, il écrivait et il jouait évidemment des pièces à la Todd School à 16 ans et ben il a décidé de partir voilà en vacances on va dire en Irlande où là aussi il s'est fait passer alors, toujours un peu le côté exagération pour quelqu'un déjà qui avait beaucoup de background en théâtre qui avait déjà beaucoup tourné, ce qui était complètement faux. Et il a commencé aussi à jouer en Irlande à cette période-là alors qu'il avait 16 ans. Et après, donc, il a essayé de se vendre à New York et tout ça en exagérant encore un peu plus en disant « je suis très très connu ». Bon là, ça a moins bien marché dans un premier temps.
Ouais. En Irlande, il s'est baladé pendant tout un été avec une carriole et
ouais.
Un âne.
Oui, tiré par un âne en effet. Ouais. Ouais.
Et donc, il gagnait un peu d'argent en faisant des dessins et en faisant du théâtre ensuite à Dublin où il a été embauché. Voilà, en faisant croire qu'il était connu
oui,
aux States.
Oui, par deux acteurs du coup, Mac Liam Moore, alors j'ai pas exactement le nom en tête, voilà, c'est deux acteurs qui étaient en couple d'ailleurs, deux acteurs homosexuels qui étaient en couple et qui ont vu en fait ce jeune adon en disant mais il est quand même assez incroyable sur scène et notamment voilà, ces deux acteurs ont un peu suivi un peu sa carrière et on retrouve certains dans certains films. Ah, oui. Voilà, un des deux joue dans Othello notamment.
D'accord, ok. Okay, oui, il n'oublie pas ses vieux copains. Et donc, il fait ça et c'est quand même une sacrée formation. Il est quand même allé aussi à Harvard avec une bourse d'études, si je ne dis pas de bêtises.
Alors moi, j'ai surtout la Todd School en tête, qui était vraiment l'endroit où il s'est vraiment formé, en fait.
Oh, oui. Et donc, après cette expérience en Irlande, et il retourne aux États-Unis, il va à New York, où là, il essaie de percer dans le théâtre avant tout.
Oui, voilà, le but, c'était vraiment le théâtre. C'est-à-dire que lui, sa première passion, c'était vraiment le théâtre et les planches. Alors, à New York, c'est vrai que ça marche un peu moins bien qu'en Irlande. Il a réussi à se dire, voilà, je suis très, 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 très fort. Enfin, j'ai beaucoup d'expérience, fort. Il était, mais l'expérience il l'avait pas. Et à New York, alors, du coup, ça a moins bien marché. C'est-à-dire que le côté un petit peu, je suis très très connu partout. Il a mis un peu plus de temps, du coup, à se mettre là au niveau grand niveau en fait au théâtre. Ça viendra un peu plus tard, du coup, dans sa carrière. Et il va commencer en fait assez tôt aussi la radio. Puisque en 1934, il commence la radio. Alors après, c'est vrai que niveau chronologie, en fait, il faut imaginer qu'en fait, il faisait un peu tout ça au bout d'un moment en même temps. C'est-à-dire que quand il commence la radio en 1934, il va aussi commencer à faire du théâtre quelques années après. Et donc tout ça, il fait en même temps le théâtre, la radio, et après, évidemment, à partir de 1941, le cinéma. Et du coup, tout ça s'entrecroise assez facilement jusqu'au fait en fait qu'il y ait une espèce de légende, on ne sait pas vraiment si c'est vrai, où il faisait de la radio en fait en journée pour pas être en retard au théâtre le soir. En fait, il prenait une ambulance parce que c'est le seul truc qui n'était pas contrôlé, ça permet d'aller très très vite et pour pas arriver en retard. Voilà, et donc il passait ses journées du coup entre les studios de radio, le théâtre le soir et après du coup sur les plateaux de tournage.
Et là, il a une vingtaine d'années à peine quoi.
Oui, c'est ça. Oui, en 34, il a tout juste 19 ans. Il a 19 ans. Voilà, quand il commence la radio.
Ok. Et alors la radio à cette époque-là aux États-Unis, c'est un média qui prend de l'ampleur de plus en plus. De plus en plus, les foyers s'équipent de radio et le cinéma voit plutôt ça d'un mauvais œil dans un premier temps, puisque ça pourrait faire de la concurrence. Mais le cinéma a toujours vu plein de choses d'un mauvais œil.
Oui, la fameuse concurrence des médias. À chaque fois qu'un nouveau média qui arrive, on dit ça va tuer. Voilà. Est-ce que Netflix un jour va tuer le cinéma? Bon, Ouais. A priori non. Hein,
a priori non. Ouais. pas plus que la télé, la radio, etc.
Exactement.
Mais par contre, assez rapidement, il y a eu aussi des liens qui se sont faits entre radio et cinéma, notamment sous l'impulsion de certains studios comme la RKO, surtout Radio quand même, qui porte le nom Radio Case Orpheum, et qui avait ses bureaux avec RCA au Rockefeller Center, et qui vraiment voulait qu'il y ait des liens entre studios entre cinéma et radio. Et donc, assez logiquement, si Orson Welles arrive à une époque en commençant la radio, peut-être qu'il y avait un peu de perméabilité entre... Et donc, le cinéma allait s'intéresser à lui. Mais ça ne viendra pas tout de suite. Il va surtout commencer à la radio. Et il va notamment se faire connaître en faisant la voix de The Shadow.
Oui.
L'ombre.
L'ombre, oui. The Shadow, en fait, il y a eu pas mal d'émissions. En fait, il a commencé par The March of Time entre 1935 et 36. En fait, c'était un petit peu les news, en fait. Les actualités, on racontait l'histoire de grandes personnes, voilà, de grands personnages. Mm. Et d'ailleurs, The March of Time, c'est par quoi commence Citizen Kane. C'est-à-dire qu'en Citizen Kane, ça commence comme ça par le newsreel, ce qu'on appelait les infos comme ça qui passaient avant les films. Ouais. Et donc il a repris ça. Donc il a commencé par ça. Et puis après très vite, ça a été des adaptations en fait de grands classiques. Donc évidemment Shakespeare. Il y a eu beaucoup de grands classiques comme ça qui Dickens qui ont été adaptés au fil des saisons. Alors ça s'appelait The Columbia Workshop, The Mercury Theatre on Air. Donc évidemment la troupe du cinéma du théâtre pardon qui ramenait à la radio et qui l'a ramené après. À Citizen Kane pour le premier film. Hein. Il a pris du coup des gens qui n'avaient jamais fait de cinéma quand même pour Citizen Kane. Et puis évidemment, la guerre des mondes, le 30 octobre donc 1938, dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça formait un peu sa légende en fait de conteur tout simplement puisque là ces émissions là on peut les retrouver facilement maintenant sur YouTube il y a des vieux vinyles pour ceux qui aiment les vinyles qui aiment le côté craquant de ces enregistrements on peut retrouver croustillant de ces enregistrements mais sinon évidemment on trouve ça sur internet assez facilement maintenant il était tout ça gratuitement puisque c'est tombé dans le domaine public et donc il y a toutes ces émissions qui sont assez incroyables Dracula il y a vraiment énormément de grands classiques comme ça. Et en fait, on a l'impression d'entendre le son en fait d'un film. C'est-à-dire que vraiment, on presque le voir en fermant les yeux, la magie, un peu de la radio. Mais il a vraiment poussé ce truc-là. Et ce qui fait que les gens aussi ont cru à la guerre des mondes. C'est-à-dire que c'était tellement bien fait, même si c'était complètement improbable, que les gens ont pensé vraiment que c'était. Enfin, certains ont pensé que l'extraterrestre était en train d'arriver.
Non, mais ça fait partie des légendes de l'histoire des arts, quelque part, comme l'arrivée du train en gare de la Ciotat. Est-ce que les gens qui ont vraiment vu cette scène ont eu peur que le train vienne les écraser, je pense pas.
Il y a un côté social aussi, ça. Voilà. C'est dans le livre. Alors du coup, je parlais tout à l'heure du livre. Ça s'appelle Broadcast Hysteria. Mm-hmm. C'est Orson Welles, World of the World and the Art of Fake News. Voilà. Désolé pour l'accent, mais vous retrouvez ça dans les timelines. On parlait tout à l'heure. C'est par Brad Schwartz qui a écrit ça en fait, et c'était en 2015. Donc, vous pouvez trouver ce livre en anglais et qui explique justement très bien ce. Il y a un côté sociologique aussi parce que les gens en fait ont entendu un bout, ils ont appelé leurs voisins et en fait les gens se sont fait peur entre eux en fait. Donc c'est très très intéressant sur c'était avant Trump hein, donc c'est vraiment très très intéressant sur qu'est-ce qu'une fake news et comment ça se ça part de cette émission là et le bouquin en fait parle de qu'est-ce qui est vraiment une fake news et l'importance des médias et des journalistes en fait qui sont là pour et maintenant on fait plus que ça hein, c'est ce qu'on voit dans les médias maintenant, c'est-à-dire que les journalistes en fait 80% de leur boulot, c'est de dire « Ah non, mais ça, c'est faux, faites attention. » On en est arrivé là, quand même, ce qui pose quand même des questions.
Et puis, 20%, pour les moins bien intentionnés, c'est copier-coller, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, on en est arrivé là, maintenant, du coup. Le travail de journaliste, c'est de dire aux gens ce qui est faux. Donc, avec Internet et tout ça, donc, ce qui pose des questions. Et ce bouquin-là, du coup, remet un peu ça en perspective. Et c'est très, très intéressant de comprendre comment se crée justement une fake news et comment ça peut partir en vrille comme ça, parce qu'il y a quand même des gens qui ont vraiment eu peur.
Ouais.
Peut-être pas autant qu'on dit, mais il y a des gens qui pensaient vraiment que c'était la fin du monde, quoi.
Ah ouais. Et heureusement, donc, ça n'a pas été le cas. C'était en quelle année, ça ?
Eh bien, c'était en 38. C'est-à-dire que c'était le 30 octobre 1938. En plus, avec Halloween, il y avait un petit indice. Et si vous voulez, vous me marrez, parce que finalement, rétrospectivement, c'est drôle, il y a sur Internet la conférence de presse d'Orson Welles le lendemain, qui était sommée de s'expliquer. Parce qu'évidemment, ça avait fait un grand scandale. Ouais. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi les gens étaient morts, hein, ce qui était complètement faux. Mais il y a eu, donc Orson Welles entouré de journalistes, il y a la vidéo sur le net. C'est juste à mourir de rire parce qu'en fait, je suis en train de m'excuser pour avoir adapté un grand classique de la littérature à la radio, quoi.
On sent qu'il se délecte un peu quand même aussi de la situation. Il a l'air d'être vraiment désolé, mais quelque part...
Il est entre désolé et en même temps, je pense qu'il se dit, ça craint quand même un peu parce qu'en fait, il ne savait pas vraiment trop ce qu'il risquait. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des poursuites contre la station de radio à l'époque. Je ne sais plus si c'était CBS ou une autre, mais il y avait vraiment du coup une pression quand même médiatique. Et donc... Et en même temps, oui, on voit qu'est-ce que je fous là, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce pays où les gens, en fait, ont vraiment cru le truc. En même temps, il était très content que ça ait marché oui, autant voilà, aussi, puisque, ça. Voilà. Le but était ça, il s'est fait repérer et c'est aussi ça qui l'a amené à Hollywood.
Exactement. À noter aussi que si c'est en 1938, il y avait donc aussi des rumeurs d'entrée en guerre.
Oui, oui, il y a tout un climat, évidemment.
Il y a tout un climat qui fait qu'on flippe. Et donc, ça le fait connaître, bien sûr, infamous, comme on dit en anglais, qui est assez intraduisible, c'est-à-dire connu, mais parfois pour des mauvaises raisons.
C'est
quoi.
Ça.
Et n'empêche que c'est connu quand même.
Oui, c'est une pierre. C'est ça qui est assez fascinant avec Orson Welles, c'est une pierre dans la radio. En radio, on demande à quelqu'un qui fait de la radio, c'est une émission, on va dire, emblématique de la radio, qui a marqué la radio. La guerre des mondes d'Orson Welles, c'est un truc qui a révolutionné en fait le média, parce qu'on dit ah ouais, ça c'est possible en fait. Et du coup, qui a fait une prise de conscience sur qu'est-ce qu'on peut dire ou pas. D'ailleurs, après, il y a eu vraiment des débats sur est-ce que c'est normal ce qu'il a fait, est-ce qu'on peut faire ça en fait, est-ce qu'on peut faire croire aux gens le côté de faire une émission si réelle, même si c'était quelque chose par rapport à quelque chose de littéraire qui était fictif, est-ce qu'on a le droit de le faire, est-ce que c'est bien de le faire quoi. Et donc, il a fait ça pour la radio. Il a fait pareil, bim, le premier film, Citizen Kane, qui est resté dans l'histoire du cinéma. Et c'est pareil pour le théâtre. Alors, le théâtre, évidemment, il y a plus de preuves, en fait. Il y a très peu de choses. Il y a un petit bout du Vaudou Macbeth qu'il a fait avec une troupe entièrement noire.
Revenons justement sur sa carrière au théâtre. Donc, tu parlais tout à l'heure du Mercury Theatre.
Oui.
C'était donc sa troupe qu'il menait, je crois.
Oui, oui, qu'il menait avec John Huseman. Oui. En fait, à chaque fois, il avait des collaborateurs qui permettaient, en fait, de faire tourner, on va dire, la boutique pendant que lui était parti dans tous les sens. C'est-à-dire que voilà, quand on fait en même temps de la télé, on en a fait un peu plus tard, mais de la radio, du théâtre, du cinéma, et ben faut quand même des gens qui tiennent un peu la baraque, à côté, qu'il y a une troupe aussi à gérer. Et donc John Huseman en fait était évidemment quelqu'un de très essentiel dans son tête, puisqu'il a vraiment créé le Mercury Theater avec John Huseman et avec toute une troupe, Joseph Cotten qu'on retrouve dans Citizen Kane notamment, Agnès Moret qui est une actrice exceptionnelle qui est notamment aussi dans Citizen Kane et La Splendeur des Amberson aussi. Et donc voilà, ça lui permettait aussi d'avoir des gens sur qui s'appuyer, puisque voilà, il partait un peu dans tous les sens. Et donc il commence à la Todd School, il fait beaucoup de pièces. On va dire le grosse pièce qui fait marquer en fait l'histoire du théâtre aussi, c'est le Voodoo Macbeth. Et c'est en fait pendant le Federal Theatre Project de Roosevelt en fait. C'est donc pendant la Grande Dépression.
Ouais.
Et en fait Roosevelt met de l'argent pour. Alors, évidemment, construire des ponts, on relance un peu l'économie comme ça, et chose très inhabituelle, encore plus aux États-Unis, pays capitaliste qu'il est devenu, en fait, on donne de l'argent en fait, aux artistes, juste pour faire des pièces de théâtre, ce qui est quand même incroyable. Quoi.
Du théâtre public, comme c'est on a ça. En France quand même.
Oui, c'est ça, mais du coup, vraiment à très grande, et du coup pour les États-Unis, c'était complètement improbable, et donc ces pièces-là étaient mises en place, et 1936, chose encore plus incroyable, il y avait une troupe qui était essentiellement composé d'Afro-Américains, c'est-à-dire que on dit pourquoi pas en fait, au lieu de les mettre dans des rôles souvent subalternes dans les pièces, on fait vraiment du théâtre avec eux, et c'est vraiment que eux en fait. Et donc on a confié à Orson Welles en fait un de ses projets, et donc il a fait donc le Voodoo Macbeth. Au début c'était pas forcément bien vu, c'est-à-dire que la communauté afro-américaine le regardait un petit peu en disant qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va en faire, est-ce qu'en fait on va pas être moqué en fait, quelque chose.
Ouais.
Et on voit des images assez hallucinantes de des gens dans la rue en fait, essentiellement afro-américains, qui viennent beaucoup au théâtre pour la première fois parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, parce qu'évidemment c'était pensé aussi pour que ce soit vraiment ouvert à tous. Et ça a été un succès hallucinant, c'est-à-dire que aussi bien critique que public. Il y a quelques secondes qui ont été filmées, des rares images qui existent qu'on peut retrouver sur le net. Évidemment après tout ce qui est pièce de théâtre, on se rend moins compte en fait que la radio et le cinéma, parce qu'il y a moins de traces, mais voilà, il a fait beaucoup de choses comme ça. Il y a The Cradle Will Rock aussi.
Oui, ça c'est un moment important parce que ça a même fait l'objet d'un film en soi.
Alors, de Tim Robbins.
Il voulait lui-même, Welles, réaliser un film sur son expérience, pas une adaptation finalement de la pièce musicale qui est The Cradle Will Rock, mais il voulait adapter l'histoire autour de quand il a essayé de monter cette pièce, enfin avec d'autres. Et il n'a pas réussi à le faire, c'était à la toute fin de sa vie. Puis finalement, il y a eu un film donc, écrit et réalisé par Tim Robbins
en 1999, exactement,
que j'ai vu hier soir, donc c'est très frais, mais qui choisit de parler donc du montage de cette pièce, mais aussi de plein d'autres choses, et surtout en fait du climat général de cette époque. C'est 1936 ou 37, je crois.
C'est 37, ouais.
37. Cette période aux États-Unis, qui est donc un des rares moments où les États-Unis sont sous une direction socialiste, en gros, et où il y a le théâtre public, où Nelson Rockefeller fait peindre à Diego Rivera une peinture, une fresque murale dans son Rockefeller Center. Au début, ça s'est mal passé. Il a fallu finalement la détruire parce que dessus il y avait Lénine. Enfin bref,
ils sont un peu trop loin. C'est-à-dire qu'à un moment,
loin.
Mais c'est pareil pour cette pièce, hein, d'ailleurs, parce que l'auteur de cette pièce c'est Mark Blitzen. Blitzen, ouais. J'essaie de le dire bien. Et donc niveau, il est plutôt gauche, voilà. Et donc ça passait pas du tout à l'époque. Et on a aussi beaucoup accusé Orson Welles d'être beaucoup trop à gauche pour les États-Unis, voire avoir des accointances avec les communistes. Donc c'était très très mal vu. Alors, il a jamais été communiste, mais voilà, ça dérangeait pas de discuter avec des gens qui étaient bien bien à gauche comme Mark Blitzen.
Et puis ça l'embêtait pas aussi d'apporter son soutien à ce genre de personnes aussi.
Oui, bien sûr. Ah oui, de toute façon.
Même sans être lui-même encarté, soutenait les personnes de gauche.
Oui, non, mais clairement. Il y a aussi un aspect politique, c'est-à-dire qu'il aurait pu être aussi homme politique. Il aimait beaucoup dire qu'à un moment, il avait hésité à se présenter à une élection, et la personne en face de lui, ça aurait été McCarthy.
Ah oui.
Et donc, il se plaisait à dire « Bon, bah, peut-être j'aurais changé un peu l'histoire des États-Unis si je m'étais présenté, que j'avais gagné. » Mais en effet, il a fait beaucoup de discours politiques, on en a peut-être par rapport à un morceau tout à l'heure, mais en effet, il y a quelque chose de très, très politique chez Welles. Il a fait beaucoup d'émissions de radio où il avait... comme ça, il venait toutes les semaines, et donc il donnait son avis en fait, hein, sur la politique. Et il a beaucoup pensé à un moment à s'enseigner en politique, en effet. Ouais.
Pour revenir à cette pièce, The Cradle Will Rock, donc, qui est aujourd'hui jouée encore, une pièce de répertoire, parce que son auteur, il a également écrit d'autres pièces connues comme Toys in the Attic, par exemple, qui avait été adaptée au ciné avec Dean Martin. Et donc cette pièce est trop à gauche, en gros. Probablement aussi a dérangé un peu Roosevelt lui-même, parce que c'était tellement à gauche que ça allait discréditer un peu tout son programme de théâtre public. Et donc la pièce a été en fait censurée,
interdite. Et ce qu'on voit notamment dans le film, c'est un peu le mythe autour de ça, mais c'est vraiment passé comme ça, c'est-à-dire que le théâtre était fermé, donc les acteurs n'ont pas pu venir
avec des militaires devant pour
garder
l'entrée,
vraiment avec les chaînes et tout, vous rentrez pas dans le théâtre. Et donc Orson Welles a fait ce qu'on va faire, on va la faire ailleurs. Donc en fait ils sont partis avec la troupe, les spectateurs, et on va dans la rue, on va trouver un autre endroit. Ils ont finalement trouvé un autre endroit. Donc la pièce s'est jouée avec Mark Blitzen, donc le compositeur, parce que du coup c'est un théâtre chanté, donc il y a beaucoup de chansons. Et donc il s'est mis au piano sur la scène tout seul, parce qu'il y avait aussi une question avec les syndicats, c'est-à-dire que les syndicats, du coup les acteurs n'avaient pas le droit de jouer sur scène. Donc en fait le truc était assez incroyable, ils ont mis les gens dans la salle, Mark Blitzen s'est mis au piano, il a chanté, il a fait la musique de toute la chanson, et quand c'était au tour des acteurs du coup de jouer leur partie et de faire leur chanson, ils se levaient au fur et à mesure dans le public, au sein du public, et ils chantaient leur partie parce qu'ils n'avaient pas le monté sur scène. Et du coup la pièce est faite comme ça, et elle s'est jouée comme ça pendant des semaines et des semaines. Et c'est devenu un peu mythique aussi, la première pièce de théâtre qui s'est faite comme ça, de façon complètement incroyable.
Ça devait être un moment assez magique, effectivement, et tellement d'ailleurs que quand on regarde le film, on se dit c'est exagéré.
C'est filmé qu'il y a toujours des choses. Alors évidemment, ça reste du cinéma, donc il faut adapter les choses. Mais non, ça s'est vraiment passé comme ça, en effet. Ouais.
Ouais. Et donc toutes ces choses là quand même, ça fait connaître énormément donc Welles. Donc je l'ai dit aussi, il a fait la une du Time. C'est quelqu'un qui est très connu pour des coups d'éclat comme ça. En plus, certains qui sont assez marquants, comme La Guerre des Mondes à la radio. Et donc ça va lui ouvrir les portes d'Hollywood. Va lui proposer un contrat en or, mais on revient là-dessus juste après une autre pause. Qu'est-ce qu'on passe maintenant, Marco ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut passer ? Manowar ? On va parler un petit Manowar, alors allons-y. Donc, c'est Manowar, donc un groupe de, on va dire quoi, heavy metal fantasy, c'est-à-dire que c'est du... C'est du heavy metal symphonique, des fois, et qui est donc fantasy, parce que ça parle de sorciers, de choses comme ça, un peu mythiques. Donc ça, c'est Defender, c'est sorti en 83 en single, puis sur l'album Fighting the World en 87. Et donc, c'est Orson Welles qui pose sa voix.
Super, on écoute ça.
Mmh. their meaning will unfold. These words are all that's left, though we've never met, my only son. I hope you know that I would have been there to watch you grow. But my call was heard, and I did go. Now, your mission lies ahead of you, as it did mine so long ago. To help the helpless ones who all look up to you, and to defend them to the end.
Le cinéma contre-attaque dans 100 ans de cinéma et des poussières.
De retour dans 100 ans de cinéma, donc dédié, consacré à Orson Welles, l'homme et son œuvre, avec notre invité Marco Pierrard, avec qui on reprend. Donc, on a parlé de ses débuts, de ses débuts à la radio, sur le théâtre, etc., au théâtre, et comment il s'est fait connaître grâce à quelques scandales ou coups d'éclat. Et donc, on a dit qu'il était tellement connu et qu'il était tellement touche-à-tout que finalement, ça lui a ouvert les portes d'Hollywood, tout ça. Et donc, il est allé à Hollywood sur l'invitation de plusieurs, hein. Son nom j'imagine devait circuler chez les producteurs, et c'est finalement la RKO, donc l'un des grands studios de cette époque-là, donc les majors, hein. Mais le seul qui n'existe plus aujourd'hui, il a fait faillite dans les années 50, mais qui l'a appelé avec un contrat du jamais vu. Oui, pardon.
J'ai retrouvé ma voix. Ah oui, voilà, c'est celui-là. Oui, en effet, oui, les RKO qui a proposé un contrat complètement incroyable. En effet, il y avait d'autres studios qui étaient un peu qui avaient essayé. Voilà, il y a des essais, il y a un petit film d'essai qu'on trouve sur internet et qui date quelques années avant, je crois en 38, 3 ans même avant, je crois pour la Warner. Il avait fait un test, donc ça n'avait rien donné. Mais en fait, c'est les RKO et en fait, il y va parce qu'en effet, on lui propose ce qui n'existait pas à l'époque et ce qui n'a quasiment plus existé depuis, c'est-à-dire on lui propose, je crois, un contrat sur trois films et deux.
Il me semble, mais. Ouais.
Mais en tout cas, il en aura fait deux et après, ouais. C'est parti en vrille. Mais, ouais. Mais en tout cas, oui, le contrat, c'est. Eh ben voilà. Carte blanche.
Voilà. Ta carte bleue, même.
Oui, c'est carte bleue, déjà, oui, parce qu'il y avait le budget et puis surtout carte blanche sur le sujet qui sera évoqué, même s'ils n'ont pas forcément pris le premier qui lui avait fait. qu'il voulait faire. Mais voilà, le sujet, tu choisis ton équipe. Donc, il a pris tous ses copains du Mercury Theater, tous les acteurs qui n'avaient jamais fait de cinéma. Et voilà, on va faire du cinéma avec eux. Et il s'est entouré surtout des meilleurs, en fait. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a fait un peu son marché. On dit souvent qu'il était très arrogant et tout ça. Mais en vrai, quand il est arrivé au cinéma, il savait qu'il ne connaissait rien. Évidemment, comme ça, Orson Welles, il a appris très très vite toutes les. Il a regardé les films, John Ford,
Eisenstein,
et il a très très bien, on va dire, synthétisé toutes les techniques, et très très vite, il s'est approprié tout ça. Et surtout, il s'est entouré des meilleurs à l'époque, au niveau cinématographie, niveau lumière, et il a dit moi je veux ce qui se fait de mieux en fait. Ouais. Et ça donnait Citizen Kane.
Et au niveau scénario aussi, il s'est entouré de.
Oui,
de très bon.
Avec Mankiewicz, c'est évidemment qui a donc coécrit. Alors c'était évidemment le grand débat de quelle partie a été écrite par Mankiewicz et quelle partie par Welles, qui a été lancée par une grande critique américaine, Pauline Kael, qui a écrit un livre en fait qui avançait la thèse en fait que Mankiewicz avait tout écrit quasiment tout seul et Welles n'avait rien fait. Après, quand on sait comment travaille Welles et comment il retravaille les scénarios et comment, même au niveau du tournage, il change beaucoup de choses, les preuves sont là en fait qu'évidemment c'est une coproduction. Et d'ailleurs, Welles n'a jamais dit qu'il avait fait lui-même, il a décidé lui-même au final de dire qu'il y aura les deux noms. En cas de Citizen Kane, il y a les deux noms, il y a Welles et Mankiewicz. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de mythe comme ça que les gens veulent que Orson Welles vole en fait un peu les choses, parce qu'il s'entoure et qu'il aurait été capable de rien faire finalement tout seul. Ce qui est un peu vrai, parce qu'en fait, il s'est toujours basé sur des œuvres soit qui existaient, du Shakespeare, il s'est toujours très bien entouré, mais il n'a jamais nié avoir bossé avec Mankiewicz. Et cette thèse-là est un peu reprise dans le David Fincher, le Mank, assez bizarrement. Qui était en fait le manque a été écrit par le père de David Fincher, donc je pense que David Fincher a repris du coup le scénario écrit par son père après sa mort, et je pense qu'il voulait peut-être pas trahir trop la vision qu'il avait, même s'il sait que sur le fond en fait il y a rien toutes les preuves sont là pour montrer, il y a beaucoup de livres qui ont été faits sur Citizen Kane et notamment sur l'évolution du scénario, et donc tous les documents sont là pour montrer comment ça a évolué, et qu'évidemment la thèse de Mankiewicz qu'il a écrit seul n'a aucun sens, mais continue encore à être là. Et ça entretient ce mythe un peu de Orson Welles qui aurait un peu trop pris la lumière par rapport à d'autres, qui n'étaient pas si génial que ça.
N'empêche que, alors par contre, effectivement, Manque donc prend un parti pris, mais c'est bien aussi quand même de remettre au goût du jour le travail de Herman Mankiewicz,
parce
que c'est un très grand scénariste, et même s'il n'a pas écrit Citizen Kane tout seul, il a quand même pas mal bossé dessus.
Oui. C'est toujours le souci, en fait, en voulant mettre trop en avant, en voulant rendre justice à la personne, finalement, le problème c'est ça de Manque, moi j'ai trouvé, c'est que ça met, c'est très bien du coup de le remettre en avant, mais pour ça, ils n'avaient pas forcément besoin de détruire Welles, c'est un peu ce que fait le film, en fait, sur la façon dont il le montre et tout ça.
Oui.
Ça aurait été, il pourrait très bien le rappeler ce qu'a fait Mankiewicz sur Citizen Kane et sur beaucoup d'autres scénarios, sans forcément être obligé du coup de rabaisser du coup l'autre co-auteur. En fait, c'est toujours un peu le problème de la balance en fait entre les deux.
Quoi qu'il en soit, en fait, juste pour terminer sur la partie sur Mankiewicz, le film Citizen Kane a remporté l'Oscar du meilleur scénario.
Exactement.
Et donc, et Mankiewicz et Orson Welles ont été oscarisés pour le scénario de ce film. Donc c'est quand même, tout est bien qui finit bien.
Alors pas vraiment, parce que c'est un peu un coup de couteau de faire le, parce que justement c'est le fait qu'il ait eu tant de facilité en fait, on a vraiment offert la carte bleue, tu fais ce que tu veux. Il a été nommé dans beaucoup de catégories et en fait la profession lui a, c'est un peu un pied-né en fait de dire on va donner le scénario, parce que justement le scénario c'est pas que Welles, c'est aussi Mankiewicz.
D'accord.
Et du coup il y a un petit côté il y a pas le meilleur film, enfin c'est vraiment
Mais il a quand même un Oscar.
Il y a un Oscar, en effet.
Enfin bref. Et pour Citizen Kane, alors bon, tout avait déjà été dit sur ce film, mais bon, revenons quand même un peu sur l'histoire. Orson Welles donc interprète le rôle principal, celui de Charles Foster Kane, qui est largement inspiré de William Randolph Hearst, qui était donc un mania de la presse et autres à l'époque.
Ouais, un genre de Trump avant le.
Oui, parce que quelqu'un d'assez désagréable aussi quand même. Ça s'inspire sans être vraiment une biographie, faut pas déconner.
Ouais. Le scénario écrit par Mankiewicz était très très centré, parce que Mankiewicz était très proche de Hearst, beaucoup plus que Welles qu'il avait vu une fois. Enfin voilà, il connaissait pas plus que ça en fait. Il trouvait le personnage très intéressant pour parler de l'Amérique en fait, genre de tycoon américain. Et justement Welles, dans sa réécriture un peu du scénario, a un peu pris ses distances avec Hearst pour que ça soit un peu moins sur Earth, mais ce qui n'a pas empêché que Earth était complètement fou furieux, parce qu'il avait bien compris que ça parlait plus ou moins, voilà, c'était inspiré de lui. Il a tout fait pour racheter le film, pour le détruire, de faire des grosses pressions sur les directeurs de studio. Ouais. Voilà. En plus, il était antisémite, certains étaient juifs, donc c'était sale.
Ouais, c'était. Puis donc, en 1940-41, à une époque où les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre et où une bonne partie de la population se demande de quel côté ils vont se mettre si jamais ils rentrent en guerre. Et voilà. Donc Hearst était plutôt du côté de l'axe, on va dire, quoi.
Ah oui, ah non, mais clairement. C'est-à-dire que oui, il y avait un parti pris, donc ouais, on savait où il était. Donc c'était pas du tout évidemment la même sensibilité que Wells, qui niveau politique était voilà vraiment beaucoup plus.
Et si le film du coup crée ce personnage quand même, même s'il est inspiré, c'est quand même un personnage à part, c'est Kane, donc joué par Orson Welles, qui a donc 26 ans et qui va le jouer pendant toute sa vie, quasiment fin de l'adolescence jusqu'à son décès, un âge assez avancé, avec beaucoup de maquillage.
Il adore les maquillages.
C'est vraiment le théâtre à l'ancienne, hein, où on met des faux nez.
Exactement.
Etc. Et par contre, là où ça va s'inspirer vraiment de Hearst, c'est dans la relation de ce personnage avec sa compagne. Et là c'est probablement ça aussi que
Marion Davies, en effet, oui, il y a le fameux Rosebud. Alors certains disent
Rosebud, juste c'est donc le premier mot qui est dit dans le film. Ça a une importance capitale dans le film. On va pas vous balancer parce que certains d'entre vous ne l'ont pas vu. Et ça, il faut absolument aller voir le film immédiatement. Et ça a une importance. Rosebud, c'est le nom de quelque chose. Et dans la vraie vie, ça serait.
Ça serait le petit nom, on va dire intime pour le sexe de l'amant de Hearst, pour la petite histoire. Voilà. Donc ce qui fait qu'il y a un petit côté aussi. Personnel qui fait qu'il était si mécontent aussi voilà, là-dessus. Quoi. Mais voilà, après, alors en effet, précisez-vous pour voir Citizen Kane, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que, en fait, il y a un problème avec Citizen Kane, c'est que moi, quand je dis j'adore Wells et tout ça, évidemment, les gens me disent ah, Citizen Kane et tout ça. Et en fait, avec les gens avec qui j'en parle, souvent, des fois, quand ils ont fait des études cinéma, c'est le film un peu obligé. C'est-à-dire qu'il y a un peu un côté scolaire. C'est-à-dire que voilà, c'est le film qu'il faut voir et tout ça. Alors évidemment, il faut le voir. Mais souvent, en fait, le fait qu'on dise c'est il faut à tout prix voir, c'est le meilleur film du monde, machin, faut jamais voir les films dans cette optique-là, on va dire, un peu scolaire, de dire il faut le voir parce qu'il faut le voir, en fait. Voyez-le si, voilà, quand vous aurez envie de le voir un jour. Mais voilà, il y a énormément de choses en ce film, on peut le voir, le revoir tant de fois qu'on veut. En plus, maintenant, il a été ressorti en 4K avec une image. Voilà. Ils se sont rendus compte dans une scène, en fait, dans un bureau, où, en fait, il pleuvait. En le passant en 4K, ce qu'on n'avait jamais vu depuis 1941, en fait.
Il pleuvait dehors.
Dehors, ouais. Ouais, c'est ça.
Pas dans le bureau.
Non, pas dans le bureau.
Oui, exactement. Moi, c'est un film que j'ai vu quand j'ai commencé des études de ciné au lycée. Mm-hmm. Et donc, que j'ai revu l'année dernière, donc avec 20 ans d'intervalle. Et ben, j'ai adoré l'année dernière. J'en avais un très bon souvenir, mais là, pour le coup, j'étais vraiment sur
Mais c'est le problème des choses qu'on voit souvent un peu, voilà, on va dire, même à l'école, les livres et tout ça, des fois, on les redécouvre après. Ouais. Et en effet, oui, c'est un film... très important, mais il y en a, en fait il éclipse, c'est ça qui est un petit peu dommage, d'autres films, notamment Falstaff, qui est incroyable, enfin voilà, qui est basé sur du Shakespeare et qui est je pense une des meilleures prestations en tant qu'acteur aussi de Wells, en fait, dans Falstaff, parce que c'est quelque part ce personnage de bouffon du roi qui est trahi, parce qu'il y a beaucoup le thème de la trahison dans les films de Wells. C'est lui, en fait, voilà, la scène où il est trahi par le prince Hal qui devient roi, qui était son pote avant, elle est incroyable, en fait, pour la scène en elle-même, mais pour ce que ça dit de Wells aussi, en fait, qui a beaucoup en tout cas ressenti la trahison toute sa vie, en fait, le fait que personne voulait financer ses films et qu'il avait beaucoup de mal à les faire financer.
Exactement. Et pour revenir à Citizen Kane, quand même, puisque tout le monde dit que c'est l'un des meilleurs films, si ce n'est le meilleur film de l'histoire du cinéma, c'est en tout cas probablement l'un des plus influents, l'un des plus originaux pour son époque. Ça a marqué parce que ça a un peu tout changé. Ça a changé la manière de faire. Parce que Wells, nous connaissant rien, tu disais, il s'est, en cinéma, il s'est entouré des meilleurs et il a laissé pas mal de latitude, notamment à Greg Toland, qui était son chef-op, son caméraman, comme on dit, mais c'est plus que ça, chef des lumières, etc. Des angles aussi de caméra. Et il est il est crédité, je crois, en tant que quasiment co-réalisateur. Greg Toland,
il est pas encore exactement, mais son nom est très arrive très vite
en
générique, en effet. Wells voulait vraiment que Toland soit vraiment mis en avant. C'est pour ça que le côté, des fois, on dit Wells faisait un peu tout seul, un peu un tyran et tout. Voilà, le côté dictatorial, parce qu'il sait et tout ça. En vrai, quand on regarde dans les faits, il savait ce qu'il devait, en fait, à ces gens-là qui l'ont entouré sur Citizen Kane. C'est-à-dire qu'en effet, Greg Toland, c'est primordial, enfin, sans Quentin Lang, il n'y a pas de Citizen Kane. Ça, c'est clair au niveau des. Bah, parce que c'est lui qui a dit, voilà, qui a appris un peu à Wells toutes les choses. Il a assimilé ça très vite. Mais en effet, c'est historique parce que la façon de filmer, il y a énormément de choses. La façon de raconter l'histoire aussi. C'est-à-dire que le flashback, le héros meurt au début et après, on essaie de comprendre pourquoi il a dit ça à la mort, à sa mort. Et du coup, voilà, on va interviewer toutes les personnes et ça a été repris. Tellement de fois dans le cinéma, quoi.
Ad nauseam, même quasiment.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est passionnant de commencer un film par sa fin. Enfin, c'est un peu le Tarantino de son époque. C'est un peu le Pulp Fiction, quoi. Ça va marquer vraiment son époque comme ça. Et on commence par montrer la fin. Donc, a priori, ça y est, on n'a plus envie de voir le film. Enfin, selon les critères hollywoodiens studios de l'époque, c'est zéro, quoi.
Ouais.
Et non, justement, l'histoire va quand même se dérouler malgré qu'on connaisse la fin. Et ça, probablement, c'est parce qu'il vient du théâtre et dans les tragédies ou dans les comédies antiques et classiques, on connaît la fin à l'avance sans même connaître l'histoire. Si on sait qu'on va voir une tragédie, on sait comment ça se termine.
Oui, de toute façon, oui. Et puis c'est le côté du spoiler dont tu dis, on va pas dire évidemment la fin ce que c'est, même si voilà, évidemment, c'est presque dans la culture populaire, quoi. Le Rosebud, il a été tellement spoilé partout, tellement de films, de séries et tout ça, c'est un peu la blague, quoi. Voilà, il y a des t-shirts où on sait voilà ce que c'est Rosebud, et presque Wells assumait pas forcément ce petit côté-là justement de Rosebud. Il disait que c'est un peu Mankiewicz qui avait fait ça, et lui disait en fait au final presque peu importe au final ce que c'est.
Exactement.
En fait le mystère c'est justement est-ce qu'on peut raconter, en fait ce film-là il raconte ça, est-ce qu'on peut raconter la vie d'un homme, en fait est-ce qu'on peut le résumer à un mot ou même à une pensée. Et voilà, et c'est ça qui donne la profondeur au film, en fait. C'est ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la vie d'un homme, en fait, exactement.
À noter que le Rosebud ou la Rosebud du film, puisque décidément on va essayer de ne pas raconter ce que c'est, est détenu, celui qui reste, par Steven Spielberg, qui l'a acheté aux enchères. Donc déjà, alors, vous savez que dans le film, c'est pas le surnom de partie génitale d'une femme.
C'est ça. Alors en sachant qu'il y a un débat là-dessus, Wells, vers la fin de sa vie, du coup, parce que je sais plus en quelle année il a acheté, mais en fait faisait passer l'info que c'était pas le vrai, mais aussi parce qu'il y avait justement ce petit regret là, en fait, la fin de sa vie il cherchait du coup de l'argent pour financer ses films, et notamment des gens comme Spielberg qui idolâtre Wells, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup, quand on dit c'est Citizen Kane, c'est le film numéro un, en fait c'est beaucoup chez les cinéphiles et les réalisateurs, en fait il y a tellement de réalisateurs qui disent moi c'est Wells, quoi, comme lui Wells disait moi c'est John Huston, voilà, c'est un peu les John Ford, quoi, c'est
apparemment Godard a dit tout le monde devra toujours tout à Wells.
Ouais. Non mais oui, ils sont très très nombreux. Et comme à la fin de sa vie, du coup, Spielberg, malgré toute l'admiration qu'il avait pour Wells, avait été sollicité pour financer des projets. Il avait été approché comme d'autres. Il fait partie de ceux qui, je pense que c'est peut-être un regret maintenant rétrospectivement, quoi, parce que du coup, on aurait bien aimé plus de films de Wells et plus de projets de Wells du coup financés. Et donc voilà, il avait fait un peu tourner cette idée que oui, non mais il l'a acheté, mais en fait c'est même pas la vraie. Tu vois.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est ça, tu vois. Écoute. Je suis là, mais bon, est-ce que c'est vrai?
La nouvelle génération, c'est pas comme avant, hein, un peu comme ça. Et ben ouais, là, donc Citizen Kane va être un succès rétrospectif, parce que pas sur le moment.
Ah, pas du tout. Hein. Ouais. Non, sur le moment, les gens s'en foutent complètement, quoi.
Exactement. Et pourtant, il va continuer sa carrière, Orson Welles. Mais notre émission touche déjà à sa fin. C'est déjà la fin de cette première heure passée ensemble avec notre invité Marco Pierrard pour parler donc de la vie d'Orson Welles, bigger than life, comme on dit, plus grand que la vie, et de son œuvre. Bien entendu, on a évoqué donc ses débuts et notamment son arrivée au cinéma avec ce coup d'éclat qui est Citizen Kane. On arrête cette émission aujourd'hui. On va se retrouver donc en août prochain pour la deuxième heure, la deuxième partie de cette émission, toujours avec notre invité Marco Pierrard. Et on finit en musique. Alors, cette deuxième partie teasing, ça sera sur la fin de la carrière, qui est en fait la plus grande partie de sa carrière. Faut pas déconner.
Ah oui, c'est ça. En fait, c'est un peu tout ce qu'on a découvert ces dernières années. Tous les projets non aboutis, ceux aboutis mais charcutés par les studios, on a retrouvé des bouts. Enfin voilà, il y aura beaucoup de choses à dire en effet sur ça.
Il y a beaucoup de choses à dire et c'est bien qu'on ait une heure pour le faire. Alors, on vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon mois de juillet. On se retrouve en août prochain et on termine bien sûr en musique. Encore une fois avec des musiques inspirées de l'œuvre de Wells. Alors là, c'est les White Stripes qui nous chantent The Union Forever. Alors quel est le lien?
Inspiré de Citizen directement, puisque Jack White, évidemment, des White Stripes, est passionné aussi par Wells. Il a vu Citizen Kane des dizaines de fois. Et donc, il a noté des paroles, des répliques ici. Il dit, tiens, ça rime. Je vais en faire une chanson. Et on trouve un moment la petite chanson, ce mot qui est chanté dans Citizen Kane.
À tout de suite. Enfin, bonne fin de journée et à dans un mois. Merci.